On va donc appeler Olivier Daripe et Cédric Gaspard pour la présentation suivante, donc qui tourne autour du défi de la remise et du maintien à l'emploi des personnes cérébro-lésées. Donc, Olivier travaille depuis 11 ans au Ressort. Depuis 2016, il partage son temps entre la coordination du centre ressources lésions cérébrales et le service d'accompagnement où il est neuropsychologue. Pour Gaspard, ça fait 15 ans donc qu'il collabore avec le Ressort. Il est neuropsychologue au centre de réadaptation fonctionnelle cognitive et donc tous les deux vont essayer de répondre à ce défi de la remise et du maintien à l'emploi des personnes cérébro-lésées.
Donc voilà, on va en effet aborder donc les questions de l'emploi après une lésion cérébrale. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés et on va essayer de voir un peu comment est-ce qu'on peut répondre au travers de nos deux structures, donc le centre de réadaptation fonctionnelle pour mon collègue et le service d'accompagnement pour moi, par rapport à ces questions d'emploi. Et puis on finira un peu par des cas pratiques de situations qu'on suit au sein de nos deux structures. Alors, la première chose qui frappe quand on parle d'emploi et lésion cérébrale, c'est vraiment le fossé qu'il existe entre le désir d'une part de la personne cérébro-lésée, qui veut vraiment retravailler après sa lésion, et puis la réalité où on se rend compte que c'est nettement plus compliqué. Alors, de manière générale, le travail est un des principaux critères de bien-être et de qualité de vie. Et donc, la réinsertion à l'emploi est vraiment un enjeu qui est, on pense, très important et qui fait appel à pas mal de motivations différentes. Des motivations identitaires, on se définit parfois par son travail. Motivation financière, il y a l'aspect pécunier qui est quand même très important. Et motivation sociale, tous les contacts sociaux que l'on a grâce au travail, on en a parlé aussi précédemment. Alors, quand on analyse un peu les chiffres de retour à l'emploi après lésion cérébrale, dans la littérature, les chiffres, ils sont assez variables et on a assez peu de données. Il y a néanmoins une étude qui est souvent citée, qui est celle d'Anoni et Colombo, qui parle de 40% de reprise de travail après un traumatisme crânien et 25% après un AVC. Donc, c'est vraiment relativement peu. Et de manière générale, par notre expérience et par la littérature, ce qu'on voit, c'est vraiment que c'est difficile de retrouver un emploi. Et ce qui est encore plus compliqué, je veux dire, c'est de pouvoir le conserver au long cours. Alors pourquoi c'est si compliqué? Peut-être parce que la lésion cérébrale, elle va toucher différentes sphères du comportement humain. Et donc on peut avoir des atteintes physiques d'une part, hein, avec une hémiplégie dans le cas d'AVC, des fractures multiples associées dans le cas de traumatisme crânien, des troubles de l'équilibre, des tremblements. Et donc tout ça va évidemment rendre certains emplois compliqués, voire impossibles. Il y a aussi tous des troubles sensoriels, avec les troubles de la vision, du goût, de l'odorat. Tout ça aussi, il va falloir en tenir compte, mais ce sont finalement ça des séquelles qui sont visibles et qui donc, même s'il faut évidemment en tenir compte et qu'elles peuvent entraver la reprise d'un emploi, elles sont quand même plus souvent reconnues et prises en considération. Et à côté de cela, on a tout ce qui est plus séquelles invisibles, on en a déjà aussi parlé ce matin. Et dedans, on a notamment les séquelles psycho-affectives, puisqu'on a vraiment, c'est des gens qui ont une vie d'une certaine manière, et puis il y a cette rupture qui apparaît avec la lésion, et une réorganisation totale de la vie. Et donc, il y a souvent plus d'anxiété et de dépression qui est associée, et dont il faudra également tenir compte dans la réinsertion à l'emploi.
Nous sommes également confrontés à d'autres types de difficultés, qui sont les séquelles cognitives. Par exemple, et de manière fréquente, nous sommes confrontés à des difficultés de mémoire, d'attention, d'organisation, d'analyse, de raisonnement, une lenteur cognitive, de la précipitation et de l'anosognosie. L'anosognosie, c'est non-reconnaissance des difficultés ou une reconnaissance limitée, partielle des difficultés que la personne a de ses troubles et de l'impact que ces difficultés peuvent avoir sur le fonctionnement au quotidien ou au travail. Alors, en plus de ces séquelles cognitives, il y a également des troubles du comportement qui peuvent s'exprimer par une plus grande irritabilité, une intolérance à la frustration, de l'impulsivité, de la désinhibition ou de l'apathie. L'apathie qui est cette difficulté à auto-initier une activité sans une stimulation extérieure. Alors tout ceci constitue ce qu'on appelle le handicap invisible. Madame Bodine en parlait ce matin en nous disant que c'était effectivement mal connu et mal perçu par le grand public, mais c'est également mal perçu, mal compris par le patient lui-même. Et ça fera partie intégrante de notre travail, bien évidemment, de pouvoir lui apporter les explications et l'aider à comprendre et à intégrer ses difficultés. Alors, parmi les services proposés par le Ressort, il y a le centre de réadaptation fonctionnelle, qui est un centre de jour qui accueille pardon, des adultes à partir de 16 ans. adultes victimes soit de traumatismes crâniens ou d'accidents vasculaires cérébraux et qui, à l'issue de la rééducation hospitalière, présentent des potentiels d'évolution pour une réinsertion sociale et ou professionnelle. Donc on s'inscrit bien dans cette filière de soins qui suit la phase de rééducation. Alors quels sont les outils que nous pouvons mettre à disposition? Mais tout d'abord, l'intervention d'une équipe thérapeutique spécialisée dans la cérébrolésion. C'est une équipe constituée de kinés, d'ergo, logopèdes, neuropsy, psychologues, éducateurs, assistants sociaux. Et cette équipe thérapeutique mettra tout son savoir-faire pour établir un programme de réadaptation cognitive, comportementale et même physique au travers de prises en charge individuelles et collectives. Alors ce qui fait, je pense, ce qui représente un atout majeur de notre centre de réadaptation, c'est la possibilité de mettre la personne en situation en entreprise, des stages en entreprise, si ça s'avérerait nécessaire, dans le cadre du bilan. Mais je reviendrai par la suite plus en détail sur ces mises en situation. Alors la durée de prise en charge au sein du centre de réadaptation est établie pour une durée de 3 années maximum. Mais par la suite, et pour suivre le projet mis en place, on peut activer un suivi médico-social pour une durée de 24 demi-journées par an pendant 2 ans.
Alors le service d'accompagnement, je ne vais pas le redéfinir puisqu'il a été défini par mes collègues juste avant. Mais donc ici, on se situe vraiment dans le suivi par rapport à l'emploi. Et donc là, les outils qu'on va avoir à notre disposition, ça va vraiment être de pouvoir faire une évaluation des différentes séquelles et de réfléchir de manière commune sur l'adéquation de l'orientation avec l'ensemble de l'équipe où on a aussi différents professionnels, neuropsychologues, assistants sociaux, éducateurs, etc. On a aussi la chance de pouvoir réfléchir les outils qu'on pourrait mettre en place de manière concertée pour qu'ils soient le plus adaptés possible pour compenser les difficultés. Alors une des grandes forces, je pense, du service d'accompagnement, c'est vraiment de pouvoir proposer des rencontres régulières, tant de la personne cérébrolésée que de la famille et que de l'employeur, en pouvant vraiment se déplacer au sein de l'entreprise ou dans les familles. Donc on va voir sur place comment ça se passe. Et ça, c'est vraiment, je pense, essentiel. Alors au niveau des autres aides qu'on utilise, on va aider les aides classiques que tout le monde peut utiliser et qu'on travaille donc en collaboration avec les agents d'insertion alors de la VIC. Et donc soit si c'est plus un stage, on va parler de primes, donc les primes d'adaptation professionnelle, on peut avoir des primes d'intégration ou de compensation qui vont prendre une partie du coût salarial et donc constituer un atout pour la personne d'engager une personne avec un handicap. Alors que ce soit au niveau du service d'accompagnement ou du CRF, en fonction de toutes les évaluations qui auront été faites, donc qui peuvent être physiques, logopédiques, cognitives, comportementales, et donc les souhaits aussi de la personne, il y a plusieurs possibilités finalement qui vont émerger quant à la reprise d'une activité. Alors la première possibilité, ce serait un retour à l'emploi antérieur, qui est quand même à privilégier, parce que à ce moment-là, on va rentrer dans des routines qui sont déjà établies, il y aura moins de nouveaux apprentissages à faire, et ce retour à l'emploi antérieur pourra se faire avec ou sans adaptation si les séquelles sont moins importantes. Si par contre le retour à l'emploi antérieur n'est pas possible, on va parler alors de réorientation professionnelle. Et cette réorientation, elle pourra se faire soit en milieu ordinaire, soit en entreprise de travail adaptée. Alors on en a un peu parlé tout à l'heure, et c'est vrai que nous, dans notre pratique, on a assez peu de personnes qu'on remet en travail en entreprise de travail adaptée. D'une part parce qu'il n'y a pas d'aménagement du temps de travail, donc ils n'engagent que des temps pleins. Or, la fatigue est quand même une des séquelles qui est prédominante après une lésion cérébrale. Et en plus, la productivité qu'il faut avoir et le rythme qu'il faut pouvoir tenir est aussi une des composantes qui est très compliquée. Donc nous, on réinsère plus en milieu ordinaire avec des primes, en tout cas dans notre pratique. Et si malheureusement l'emploi n'est toujours pas possible, on se tournera, ou ça peut être aussi un choix de la personne, on va se tourner plus vers une activité de bénévolat ou alors vers des activités de loisirs. Alors ici, ça vous montre un peu les chiffres au niveau du centre de réadaptation fonctionnelle. Donc, surtout leur suivi qu'ils ont eu depuis 2005 jusqu'à 2017, on voit qu'il y a quand même 53% qui aboutit donc à la reprise d'une activité. Et donc ça se ventile avec 16% qui vont reprendre un emploi qui n'a pas nécessité d'adaptation, même si ça a peut-être entraîné une réorientation. Souvent c'est une réorientation, mais après il n'y a plus d'adaptation dans l'emploi. Il y a 13% où ça va être un emploi avec des adaptations, et 24% dans une insertion socio-occupationnelle. Donc on parle d'activités régulières avec une supervision à ce moment-là. Et dans ces 24%, il y a 10% qui concernent un bénévolat. Alors si on prend le premier cas qui était la reprise de l'emploi antérieur, donc comme je vous ai dit, si les séquelles sont relativement faibles, il n'y aura pas vraiment d'adaptation, il faudra juste veiller à un retour progressif et pas vouloir tout remettre en place en une fois. Si par contre les séquelles sont plus importantes, là on va faire appel à des adaptations qui peuvent être d'une part l'adaptation du temps de travail, j'en ai parlé juste avant, qui est souvent importante à mettre en place. On va évidemment adapter le poste aux séquelles qui auront été observées. On va mettre en place et utiliser différentes aides techniques. Une autre chose très importante, je pense, c'est de pouvoir expliquer ces séquelles aussi bien à l'employeur, mais aussi aux collègues, pour pas que ce soit interprété d'une mauvaise manière. Et puis c'est très important de vraiment offrir un suivi régulier pour vraiment désamorcer tous les petits problèmes qui pourraient se passer, être très proactif, anticiper les changements et alors rappeler aussi régulièrement les procédures, l'utilisation des outils, etc. Donc parfois je dis on est un peu l'empêcheur de tourner en rond en répétant toujours les mêmes choses, mais on voit que c'est nécessaire. Parce que souvent quand il y a remise à l'emploi, ça reste sur un fil, ça reste un équilibre et donc souvent les problèmes arrivent après quelques mois quand la motivation a un peu baissé ou quand les collègues vont un peu se lasser des séquelles. Et donc c'est important de continuer à venir à l'emploi, répondre aux questions et rappeler toutes les choses qui ont été mises en place.
Alors malheureusement parfois en raison de la sévérité des séquelles cognitives, physiques ou comportementales, un retour à l'emploi antérieur n'est pas envisageable, même avec adaptation. Il sera dès lors nécessaire de pouvoir entamer avec le patient, avec la personne, un travail de réflexion sur la nouvelle orientation professionnelle. Alors ce travail de réflexion devra être envisagé en fonction du profil qui aura été établi, c'est-à-dire profil cognitif, c'est son profil physique et comportemental, mettant en évidence aussi bien ses capacités préservées sur lesquelles nous pourrons nous appuyer, mais également les limites. Il sera très important de pouvoir travailler sur l'intégration et la reconnaissance de ces limites et donc sortir un petit peu de cette anosognosie dont je parlais tout à l'heure, afin d'éviter que la personne ne fasse des essais qui le confronteront à des échecs annoncés. Alors ensuite, lorsqu'on aura bien travaillé sur ses capacités et ses limitations intégrées, on pourra envisager la mise en situation en entreprise sous forme de stage. Donc, je vous avais dit que je vous détaillerai ces immersions en entreprise. Alors, l'objectif de ces immersions en entreprise, de ces stages, seront de faire une évaluation sur plusieurs facteurs, de la capacité de réintégrer le milieu professionnel visé. Alors, multifactoriel, pourquoi ? Parce que on va essayer de chercher, par l'intermédiaire de ces stages, toute une série de réponses, notamment concernant la charge de travail et l'augmentation progressive de cette charge de travail, l'augmentation progressive du temps de travail presté. On va également s'intéresser à pouvoir évaluer la qualité et la vitesse de l'apprentissage. Et comme on disait ce matin lorsqu'on parlait de participation sociale, lorsque M. Billot nous parlait de participation sociale, on va également s'interroger sur la capacité à être en relation et être en interaction avec d'autres. Ici, dans ce cas-ci, ça pourrait être aussi interaction avec des collègues de travail, mais également avec toutes les personnes qu'on pourrait rencontrer dans le cadre du stage. Également la réaction face au stress, l'adaptation au changement. Alors tout ceci nous permettra d'avoir une information supplémentaire qui viendra compléter les bilans qui auront été faits au centre et également le feedback de l'employeur qui pourra aussi évaluer la perte de rentabilité que la personne pourrait avoir dans ce type de poste.
Donc on va maintenant aborder un peu des situations plus pratiques. Et donc le premier, c'est un exemple d'un retour à l'emploi antérieur. Et donc c'est une dame qu'on suit au service d'accompagnement qui a eu un AVC Sylvien 3 droit en 2012. Ça faisait plus ou moins 10 ans qu'elle était enseignante dans le primaire. Elle va faire un parcours hospitalier de rééducation de plus ou moins un an. Et lorsqu'elle arrive au service d'accompagnement en 2014, ses difficultés sont d'une part physiques, avec une hémiplégie gauche, et des difficultés cognitives, avec une héminégligence, des troubles de l'attention, surtout l'attention divisée, des troubles de la mémoire, et une faiblesse en inhibition, et aussi une fatigue assez importante. Alors l'objectif et la demande au service d'accompagnement, c'est de la remettre à l'emploi. Et elle, ce qu'elle veut, c'est retourner à l'emploi. Alors sur base, notre manière de travailler, c'est qu'on va analyser les séquelles et la demande. Et sur cette base, on ne sait pas dire si c'est possible ou pas. Donc ce qu'on va lui proposer dans un premier temps, c'est de faire un bénévolat dans une école des devoirs pour pouvoir observer sur place comment ça se passe avec un petit groupe. Donc on se rend compte que ça se passe relativement bien. Et donc on décide à ce moment-là, alors en collaboration avec le pouvoir organisateur de l'école, de la remettre en stage de manière progressive pour reprendre contact avec l'école. Alors ce retour en stage va se faire dans un premier temps où elle va reprendre contact avec les élèves dans des tâches plus administratives, puis elle va pouvoir faire du soutien en petits groupes, et puis vraiment la dernière étape c'était de pouvoir gérer une classe, donner un cours, mais avec la supervision d'une collègue. Donc pendant cette phase-là, on va se rendre toujours à l'école, on va observer comment ça se passe et on va avoir des feedbacks au niveau des différents collègues. Alors le constat qu'on peut faire, c'est que même si elle a gardé de bons réflexes pédagogiques, elle n'est quand même plus capable de gérer une classe toute seule. Et surtout, à cause de ses problèmes d'attention divisée, du fait qu'elle ne sait pas porter son attention sur plusieurs enfants à la fois. On remarque aussi qu'il y a quand même une fatigue assez importante. Il y a des difficultés aussi dans les déplacements, dans l'école, mais aussi pour arriver à l'école. Et une des grandes difficultés, c'est aussi vraiment de faire face à l'imprévu. Qui, dans une école, ça arrive quand même relativement souvent. Donc les recommandations qu'on va faire par rapport à ça, c'est de dire, ben voilà, gérer une classe, c'est peut-être compliqué, mais elle peut, en effet, toujours offrir un soutien en petit groupe, parce que les réflexes pédagogiques sont toujours bien là. Pour compenser la fatigue, ce serait d'avoir des horaires un peu adaptés. Au niveau des déplacements, ça va être de réduire les déplacements et on dit que ce serait bien qu'elle ait une place de parking adaptée déjà pour avoir moins de trajets pour se rendre à l'école. Et alors, au niveau vraiment de l'imprévu, ça va être d'avoir une meilleure planification, une meilleure organisation pour essayer qu'il y ait moins d'imprévus qui se passent. Et si ça se passe, de pouvoir avoir une personne de référence qui, elle, la rassure au sein de l'école sur laquelle elle peut se retourner. Donc ces recommandations, elles vont être faites à la médecine du travail dans ce cas-ci, qui est le MEDEX, puisqu'elle est enseignante, et qui va en tenir compte et qui va en fait la juger inapte à pouvoir garder une classe, mais qui va quand même là en fait la remettre à l'école, mais de manière surnuméraire, pour pouvoir faire du soutien de petits groupes. Alors vu qu'elle est surnuméraire, donc c'est en 2016 qu'elle reprend son emploi, ben, l'école va évidemment tenir compte plus facilement des recommandations, puisque pour eux ils ont pu la remplacer, et donc c'est une aide en plus finalement. Et donc on va dans un premier temps la mettre comme aide dans une classe passerelle où ils ont en fait des primo-arrivants qui arrivent, donc ils ne parlent pas très bien français. Ils vont permettre une adaptation du temps de travail à plus ou moins trois quarts temps. Mais malgré tout, on va se rendre compte que c'est encore trop compliqué, parce que même s'ils sont moins nombreux, il y a quand même encore beaucoup d'enfants. Et donc la gestion est compliquée, puis il y a des difficultés d'organisation avec la collègue qui est en charge de la classe. Et c'est une classe qui est quand même pas facile, des primo-arrivants qui ont des difficultés avec le français, c'est peut-être pas le plus facile, et donc il y avait beaucoup de fatigue, et quand il y avait beaucoup de fatigue, il pouvait y avoir un peu de désinhibition aussi qui apparaissait. Donc finalement, elle a été détachée pour plus reprendre vraiment du soutien en individuel ou en très petits groupes. Et alors ce qu'elle va faire aussi, c'est animer de manière ponctuelle dans différentes classes un programme spécifique qu'elle maîtrisait déjà avant, qui était un programme au niveau mathématique. Donc ça se passe relativement bien, mais c'est important aussi de maintenir le suivi. Parce que d'une part, chaque année, les classes rechangent, et donc il faut redire aux profs qu'ils peuvent avoir du soutien, parce qu'elle, par son apathie, est un peu difficile à rappeler qu'elle peut proposer cette aide. Il y a des nouvelles difficultés qui sont passées au niveau déplacement, et donc on a dû faire des réajustements aussi. Et de lui rappeler d'utiliser ses outils pour son organisation, c'est aussi quelque chose d'essentiel, parce que sinon ça se perd un peu.
Pour illustrer le cas d'une personne en réorientation professionnelle, on a choisi un jeune homme de 23 ans qui était formé en électromécanique automobile, qui travaillait dans la même concession depuis 4 ans au moment de l'accident. Il a été victime d'un traumatisme crânien grave en avril 2005, ensuite pris en charge à l'hôpital durant 3 mois et ensuite en consultation neurologique durant 2 ans. Alors les incapacités mises en évidence au terme de la prise en charge hospitalière étaient des troubles des mémoires, une lenteur d'apprentissage, une sensibilité aux interférences en situation de double tâche et de la fatigabilité, un manque d'initiative et de la désinhibition, avec une mauvaise perception des limites, et au niveau des séquelles physiques, une limitation fonctionnelle de son poignet droit et une gêne ophtalmique. Alors, cette personne entre au centre de réadaptation en juin 2012. Alors donc vous aurez vite fait le calcul, ça fait 7 ans, quasiment 7 ans après son traumatisme crânien. Alors quel parcours a-t-il effectué durant ces 7 années? Entre février 2006 et novembre 2007, il a réintégré son entreprise, mais un poste de travail adapté, où ne lui était plus proposé que des tâches administratives, avec dans un premier temps une reprise mi-temps, durant 4 mois, et ensuite à temps plein jusqu'en novembre 2007. Entre novembre 2007 et août 2011, ça a été une succession de 4 emplois dans différentes concessions automobiles, soit au poste de réceptionniste, soit au poste de chef d'atelier. Alors tout s'est soldé par des licenciements successifs avec à chaque fois les mêmes motifs, c'est-à-dire motifs qui rejoignaient directement évidemment les incapacités mises en évidence lors des bilans, une lenteur de travail, des oublis fréquents, oublis qui étaient encore accentués par la fatigue et le stress, une insertion difficile dans l'équipe de travail, ce qui peut être relié aussi à son humour mal géré, donc cette part de désinhibition, et des difficultés d'apprentissage pour les nouvelles procédures. Alors, quand il arrive chez nous, 7 ans donc après son traumatisme crânien, il présente bien évidemment les mêmes incapacités, toujours ses troubles amnésiques, toujours son syndrome dysexécutif et son anosognosie. Donc, l'anosognosie, très importante d'en parler, puisque c'est réellement ce qui l'a mis en situation d'échec au cours des différentes tentatives, surtout son parcours entre le traumatisme et l'entrée au CRF. En plus, évidemment, de ce tableau cognitif initial, venait se rajouter un état dépressif et une attitude assez pessimiste et craintive par rapport au changement, suite évidemment à cette multitude d'échecs. Alors, sur base d'un bilan pluridisciplinaire, sur base de l'expérience de cette personne pour le milieu automobile et de ses compétences résiduelles, c'est un patient qui gardait de réelles capacités techniques, nous avons envisagé la mise en stage en entreprise, dans un magasin de pièces détachées pour automobile, au poste de magasinier, dans un stage 2 journées par semaine que l'on avait établi pour une durée de 3 mois. 3 mois durant lesquels nous allions pouvoir nous ajuster par rapport aux difficultés observées. Alors, quelles ont été les difficultés observées? Au niveau de sa fatigabilité, dans un premier temps, on avait envisagé une mise en stage 2 journées consécutives, mais on a dû absolument intégrer une journée de repos pour permettre à ce patient de pouvoir récupérer et de pouvoir recommencer une deuxième journée de travail. Tu peux plus dire, je vais faire les deux en même temps. Au niveau de ses difficultés de mémoire et de ses difficultés d'apprentissage pour les nouvelles techniques, a été mis en place un carnet de notes dans lequel la personne prenait note des informations importantes, comme le mot de passe pour l'ordinateur, des tâches à effectuer en cours de journée, tâches qu'il pouvait au fur et à mesure supprimer lorsqu'elles étaient terminées, mais également établir toutes les séquences, toutes les étapes à suivre dans le cadre de nouvelles procédures. Donc c'est cette checklist qu'il aura établie, il pouvait s'en servir par la suite pour essayer d'intégrer le plus rapidement possible les nouveaux apprentissages. Nous avons pu l'accompagner sur place durant quelques journées de stage pour voir la manière dont cette checklist était utilisée et pour voir si elle était efficace. Et par la suite, le relais a été passé à son collègue direct qui pouvait superviser l'application de nouveau de cette checklist jusqu'au moment où ça devenait des procédures plus automatiques. Alors, en ce qui concerne ses capacités d'adaptation au changement, nous l'avons évalué sur 2 sites de travail différents pour voir comment est-ce qu'il pouvait passer d'un site de travail à un autre site de travail. Donc, sur base de toutes ces observations, après les 3 mois de stage et en fonction des ajustements que nous avions pu mettre en place, nous avons pu mettre en évidence que cette personne avait réellement des capacités de travail à mi-temps au poste de magasinier avec une perte de rentabilité de 25%, sous réserve évidemment de mettre en place les adaptations qui avaient été nécessaires. Alors, les 25% en perte de rentabilité ont été pris en charge par l'assurance, mais dans d'autres circonstances, nous aurions pu évidemment faire appel à la VIC pour des primes de compensation. Alors, dernier exemple, l'exemple de réinsertion socio-occupationnelle. Oui. Il s'agit d'un homme de 49 ans, technicien à l'hôpital depuis 10 ans au moment de l'accident, victime d'un traumatisme crânien grave en 2014. 2 années de prise en charge hospitalière et ensuite entrée au centre de réadaptation. Alors, quelles sont ses incapacités? De gros troubles amnésiques. Les capacités sont faibles en mémoire à court terme, elles sont déficitaires massivement en mémoire à long terme et une grosse apathie. La désinhibition, la persévération et une rigidité mentale qui ont fait qu'au fur et à mesure, évidemment, il s'est désinséré au niveau social et au niveau professionnel. Alors, il était très clair pour cette personne qu'il n'était plus envisageable de reprendre le chemin du travail, mais malgré tout, il exprimait la volonté d'avoir une utilité sociale. Et donc, il souhaitait pouvoir être évalué au niveau de ses capacités à intégrer un bénévolat. Alors, on a envisagé les différentes pistes possibles et en fonction de ce centre d'intérêt, on a privilégié la piste de la Croix-Rouge avec un bénévolat au centre de prélèvement de la Croix-Rouge, la vestiboutique et le service de transport de matériel paramédical. Alors, quelles ont été les adaptations nécessaires pour ce bénévolat? Mais bien évidemment, en raison de sa grosse apathie, il y a une supervision et une stimulation régulière qui a dû être mise en place, un accompagnement permanent par un collègue et une prise de notes pour tout ce qui concerne de nouveau les informations importantes ou les tâches à effectuer en cours de journée. Le bénévolat, c'est inscrit sur 2 demi-journées par semaine. Alors, de nouveau, au terme de cet essai, nous avons pu mettre en évidence la possibilité pour cette personne de garder cette place de bénévole. Et pour contrecarrer les risques de désinsertion de nouveau à cette apathie, nous avons mis en place un suivi médico-social dont je parlais tout à l'heure, à raison de 24 demi-journées par an, qui nous permettait de pouvoir intervenir si la personne décrochait de ce projet.
Et donc pour conclure, on va reprendre un peu les différents facilitateurs et à l'inverse les obstacles par rapport à une reprise à l'emploi après lésion cérébrale. Il y a évidemment le niveau prémorbide, puisque le niveau d'éducation et intellectuel va avoir un impact. Il y a évidemment l'âge au moment de la lésion. Si on est plus proche de la pension, ça va être plus difficile évidemment de réinsérer. Et si le parcours antérieur était déjà chaotique, on va dire, ça va être évidemment aussi plus compliqué. Alors, ce qui est aussi important, c'est vraiment d'avoir une évaluation bien précise de toutes les difficultés de la personne, mais aussi de toutes ses capacités qu'elle a conservées, et de voir cela en parallèle avec les exigences du poste, et de pouvoir peut-être mettre différents outils de compensation, et ces outils de compensation ou ces aménagements qui peuvent être mis doivent être tolérables par tous, c'est-à-dire qu'ils doivent être réalistes, ne pas entraver trop le travail des collègues ou le fonctionnement de l'entreprise, sinon ce ne sera pas possible de pérenniser l'emploi. Alors évidemment, le type et la sévérité des déficits va aussi avoir un impact, puisqu'on constate quand même que les troubles instrumentaux ou les troubles du comportement sont ce qui ont le plus d'impact sur la reprise de l'emploi. Et évidemment, l'association de plusieurs limitations, quand on a des associations de limitations cognitives et physiques, ça va être évidemment nettement plus compliqué. Alors un autre point important dont mon collègue a beaucoup insisté, c'est vraiment la prise de conscience des nouvelles limitations. Si la personne n'a pas conscience de ses limites, elle ne va pas pouvoir utiliser les outils et donc ça va être vraiment très difficile de pouvoir la réinsérer dans un emploi. C'est aussi important, on pense, d'avoir vraiment un accompagnement par des équipes spécialisées qui connaissent les troubles consécutifs à une lésion cérébrale, afin de ne pas se laisser un peu berner par le beau vernis intellectuel qu'ils pourraient avoir, et de pouvoir expliquer aussi leurs troubles pour pas qu'ils soient mal interprétés par les autres collègues ou par l'employeur. Alors, avec les personnes cérébrolésées, c'est aussi très important d'avoir une collaboration vraiment très étroite entre la personne cérébro-lésée, entre l'équipe spécialisée et l'employeur, et peut-être également la famille. Importance aussi d'avoir une personne de référence, tant dans l'équipe spécialisée, mais peut-être sur place dans l'entreprise aussi, qui pourrait être le relais de l'équipe spécialisée, ou vers qui la personne cérébro-lésée pourrait se tourner en cas de problème, puisque fatalement on n'est pas tout le temps présent. Et enfin, l'entourage familial ou autre qui est soutenant, qui va permettre de trianguler et qui va faire que tout le monde peut aller dans la même direction. Voilà, nous vous remercions de votre attention.
J'imagine qu'il y a des questions dans l'Assemblée.
Voilà, il nous arrivait de faire un tout petit peu votre travail. Je me dis, ce qui doit être très difficile, et je voulais savoir comment vous gériez ça, c'est la question du deuil. Vous êtes confronté à la vie d'avant des personnes, à une vie à reconstruire après. Et je me dis, mais je me projette peut-être trop, ça doit parfois être terriblement dur pour vous d'affronter ça, de voir les manques, de voir les différences et compagnie. Et j'aurais voulu savoir comment vous... est-ce qu'il y a des procédures qui sont prévues pour gérer ça en équipe? Est-ce comment vous accompagnez ça?
Alors, c'est effectivement une partie assez difficile du travail, mais ça fait partie effectivement de notre travail. Quand j'expliquais tout à l'heure la durée de prise en charge au centre de réadaptation de 3 ans, dans un premier temps, c'est vrai que pour les patients, ça peut paraître long. 3 ans de prise en charge alors qu'ils ont déjà derrière eux toute une prise en charge à l'hôpital. Mais en fait, c'est pas long du tout, parce que on va avoir besoin de ce temps-là pour justement pouvoir retravailler le deuil et l'acceptation de la personne. Alors l'acceptation, c'est pas toujours le bon terme, mais en tout cas l'intégration par la personne de ses nouvelles limites. Et donc c'est un travail qui va se faire progressivement, qui va se faire, je vais dire, au goutte à goutte, jusqu'au moment où la personne, avec les mises en situation qu'on pourrait proposer au ressort, avec les mises en situation plus écologiques, mais parviendra, accompagné par l'ensemble de l'équipe, à accepter que les choses sont différentes d'avant et que les limites, elles sont nouvelles, elles sont autres, elles sont permanentes malheureusement. Et donc ça fera simplement partie du travail d'accompagnement, je veux dire, de la personne à pouvoir au fur et à mesure nous faire assez confiance pour que le retour qu'on peut en faire de ces limitations soit effectivement une réalité. Et donc, on pourra par la suite avancer. Je reviens deux secondes parce que j'ai déjà insisté tout à l'heure sur l'importance de la prise de conscience de ces limites. Je pense que dans le cas de notre exemple de la réorientation professionnelle, mais si ça a été une réussite, hein, parce que je ne l'ai pas dit, mais cette personne est toujours au poste actuellement, au poste de travail, si ça a été une réussite, c'est parce que la personne a réussi à finalement reconnaître, intégrer ses difficultés. Et donc, en fait, c'est lui, de nouveau, ce sont toujours, de toute façon, les patients qui font la plus grande part du travail, c'est lui qui ne cherchait plus à aller plus loin au poste de travail, d'aller chercher des compétences qu'il n'avait plus. Et donc, il a simplement, à un moment donné, pris conscience de ça, avec notre aide, on va quand même le dire, évidemment, mais à partir du moment où il a pris conscience de ses limites, eh bien, à ce moment-là, il a pu partir dans quelque chose de beaucoup plus positif, c'est-à-dire qu'il n'allait plus chercher la mise en échec. Et c'est la seule raison, je pense, pour laquelle actuellement il y est toujours. Parce qu'il ne va plus chercher au-delà de ce qu'il peut prétendre. Je ne sais pas si j'ai répondu. En tout cas, j'ai répondu, peut-être à côté, mais j'ai répondu.
Je voulais juste rajouter que le rythme est parfois très différent. Et donc parfois, il y en a qui, lorsqu'ils vont passer au centre de réadaptation fonctionnelle, ne vont pas pouvoir accepter justement ces limitations. Ils vont peut-être claquer la porte et puis devoir vivre leurs expériences et puis peut-être revenir au service d'accompagnement et qu'après, on va pouvoir mettre des projets en place. Et donc, c'est important aussi de respecter ce rythme de chacun qui peut être différent. Et parfois, eux vont l'accepter, mais pas la famille aussi. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Alors, on n'a pas une baguette magique, mais on essaye de travailler, comme il a dit, un maximum là-dessus.
Autre question ?
En fait, je voulais savoir, par rapport aux personnes que vous accompagnez, donc dans la remise à l'emploi et même pendant tout leur parcours, j'imagine qu'à certains moments de leur parcours, justement, elles sont soit sur la mutuelle, soit sur le chômage, soit sur un autre revenu. Et je voulais savoir, enfin, vous ne parlez pas du tout de ça, vous n'êtes jamais confronté aux difficultés du système assez rigide au niveau des allocations, le fait qu'on soit quelque part un petit peu poussé par les instances qui demandent, ben voilà, la personne n'a pas fait telle preuve ou telle preuve de remise à niveau. Ici, dans le cas des cérébraux lésés, je sais bien que ça me paraît plus médical. Et donc, je voulais savoir si on vous laisse quand même plus ou moins tranquille dans votre champ d'action. Quoi. Est-ce que les instances comprennent le travail que vous faites et est-ce qu'ils vous laissent, entre guillemets, travailler ?
Alors, je vais peut-être répondre parce que c'est de la responsabilité médicale, mais il est évident que ces personnes sont maintenues en incapacité de travail pour raison médicale. Donc ça, c'est très clair. Donc on n'a pas, en tout cas, la forme de pression du chômage, ça on ne l'a pas. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'on doit rattraper des situations. C'est surtout pour ces personnes qui errent, qui ont repris le travail, qui passent d'un travail à l'autre, qui sont virés, et qui là c'est vraiment une précarisation. Et donc là, il y a un travail aussi médical, j'ai presque envie de dire, de rôle d'avocat des personnes. C'est vraiment parce que quand vous remettez des gens en incapacité médicale de manière prolongée, c'est là que les mutuelles vont éventuellement ne pas comprendre que 5 ans après, on va remettre des gens en incapacité médicale de manière prolongée. Donc il faut faire ce travail et de défense. Pour bien expliquer que ben voilà, c'est un retour juste, c'est tout simplement qu'on a loupé l'affaire et que c'était justifié.
Moi, c'est une question très pratico-pratique. Quand vous essayez d'obtenir des stages pour des tests, est-ce que vous essuyez beaucoup de refus ou est-ce qu'ils disent facilement oui et quels sont les avantages que mettez en avant pour qu'ils acceptent ?
Là, honnêtement, je n'ai pas réellement de réponse. Non, c'est pas simple. Ça dépend vraiment de la personne qu'on a en face de nous, ça dépend vraiment de la fibre sociale que l'employeur pourra avoir, ça dépend évidemment de l'explication qu'on en fait. On essaie de rassurer en disant que si on envisage un stage, ben c'est forcément parce qu'on pense que la personne a quand même de réelles compétences, qu'on voudrait juste les évaluer en situation réelle, qu'on voudrait simplement avoir un feedback de professionnel. Et là, on reconnaît nos limites, on ne sait pas mettre en place tout type de test. Alors, on met en situation écologique, mais on ne pourra jamais se rapprocher autant qu'une situation réelle. Donc voilà, en tout cas, des listes de stages préétablies, des endroits où on peut revenir. Alors, on essaie de créer une espèce de réseau, mais on n'a absolument pas ça pour le moment. Donc, ça sera vraiment en fonction du stage visé. Donc, on accueille tout type de profil. Donc, évidemment, on sera amené à chercher tout type de stage. Et donc, c'est chaque fois une nouvelle recherche, c'est chaque fois de nouvelles tentatives de partenariat. Il n'y a pas réellement de réponse autre pour ma part à apporter à ce niveau-là.